Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme d'habitude, nous voulons faire une petite récapitulation sur les thèmes que nous avons vus, les doctrines que nous avons vues dans les dernières semaines. Ça fait quand même déjà 7 cours qu'on regarde. Ce soir, c'est le 7e cours. Et dès le début du cours, nous avons regardé ensemble, nous avons fait une introduction. Nous avons compris que aussi que la vie chrétienne repose sur le fondement de notre connaissance vraiment de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. La vie chrétienne que nous menons, nous en tant que chrétiens, cette vie que nous vivons avec Christ, nous pouvons la vivre pleinement seulement lorsque nous aurons compris vraiment la personne qui est Jésus-Christ, la portée de son œuvre. Nous avons vu aussi le péché. Nous avons vu que a ruiné notre relation. La relation que le Créateur voulait avoir avec sa création a été ruinée lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Et ultimement, tous les hommes ont hérité ce péché-là, ont eu cet héritage du péché. Nous savons que nous péchons aussi par nature. Lorsque nous aurons compris aussi que le péché nous fait tomber sous la condamnation, ça va nous aider à vivre sur notre marche comme il faut dans la vie chrétienne. Le péché nous fait tomber sous la condamnation de Dieu. Et Dieu, nous avons vu dans le premier cours comment Dieu déclare que tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont pervertis. On lit ça dans Romains chapitre 2, comment il n'y a personne vraiment, aucun homme qui ne cherche Dieu. Nous suivons notre propre voie et nous ne suivons pas les voies de Dieu. Et à cause du péché qui est en nous, nous méritons la condamnation de Dieu. Et ce péché-là, lorsqu'il est entré en nous, le péché que nous faisons dans notre nature, nous sommes des pécheurs, le péché salit et il brise l'image initiale que Dieu avait pour nous. La Bible dit, nous l'avons vu dans Genèse, Dieu nous avait créé à son image et cette image a été ternie avec l'entrée du péché dans notre vie, l'entrée du péché dans le monde. Nous avons vu aussi que Dieu, à cause du péché, à cause de la condamnation que Dieu met sur le péché, ce verdict que tout homme est pécheur et que nous méritions l'enfer, Dieu, dans son amour, il a mis en place un plan de grâce que nous appelons le plan du salut aussi. Et ce plan de grâce-là, il passe par, premièrement, l'appel de Dieu. Dieu nous appelle, il fait appel à chacun des pécheurs. Il veut que nous soyons sauvés, il veut que nous venions à lui. Et tout cela, nous avons vu dans Romains que Dieu veut nous regagnons cette image-là, que nous ayons à nouveau cette image-là que nous avons perdue avec le péché. Dieu nous appelle. Et quand Dieu nous appelle, il nous connaît par notre nom. Nous sommes chers à notre Dieu. Nous avons vu ça avec notre frère Mauricio. Il y a 2 semaines, nous avons vu aussi comment est-ce que Dieu, dans sa grâce, il fait provision pour que nous soyons convaincus du péché et que nous ayons cette conviction du péché, que nous avons péché contre Dieu et que Dieu a en horreur le péché et que ça doit nous amener à prendre une décision par rapport à notre relation avec Dieu. Si nous continuons à vivre dans le péché, évidemment, nous perdons notre relation avec Dieu. Et Dieu, et dans sa grâce, il met son Saint-Esprit pour nous convaincre du péché. Nous avons vu il y a 2 semaines du convaincre du péché et du jugement, de la justice aussi du jugement. La semaine passée, notre frère Mauricio vous a entretenu sur la doctrine de l'élection. Comment est-ce que Dieu lui-même nous a choisis avant même la fondation du monde? Dieu a mis en place, il a choisi son fils pour être le victime expiatoire pour les péchés de l'humanité avant même la création du monde. Et aussi, il a choisi ceux-là qui sont élus, il les a élus avant même la création du monde. Alors, c'est ce que nous avons vu dans la dernière semaine et ce soir, nous allons voir ce qu'on appelle la vraie repentance. Alors, là, c'est quoi la vraie repentance? Nous allons le voir plus tard, mais commençons premièrement par comprendre qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Le cours s'intitule « La vie chrétienne ». Si je vous demandais de définir la vie chrétienne, vous auriez certainement une définition différente que la mienne, c'est sûr. Mais on va l'accepter, cette définition-là, ensemble. On croit que la vie chrétienne, c'est vraiment le résultat de la nouvelle naissance. On est né pécheur et que par le sacrifice, lorsque nous croyons dans le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne parle à Nicodème, il lui dit, il faut que tu naisses, que vous naissiez de nouveau, Nicodème. C'est cette nouvelle naissance-là, et lorsque nous en passons par cette nouvelle naissance, Dieu introduit une nouvelle vit en nous, et cette nouvelle vie-là, c'est finalement la vie chrétienne, finalement, que nous vivons. Alors, cette vie chrétienne-là, nous pouvons dire, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. Alors, quand on devient chrétien, on ne peut plus vivre comme nous vivions avant, comme nous vivions auparavant, comme les gens qui sont du monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Ce mode de vie, nous voulons dire commandé par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous n'avons pas le choix que d'avoir une vie transformée, une vie nouvelle. Et cette foi en Christ-là, c'est notre réponse. C'est notre réponse à la bonne nouvelle lorsqu'elle est annoncée, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle est annoncée, tous les hommes sont pécheurs, etc. Et nous croyons que nous méritons l'enfer, nous méritons de passer l'éternité loin de Dieu. Alors nous acceptons ce message-là, que le Fils de Dieu Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés. Alors lorsque nous acceptons ce message-là, c'est ce qu'on appelle la foi. Nous croyons à ce message-là, la foi en Jésus-Christ. Et aussi, comme nous l'avons dit, c'est la foi, c'est de croire vraiment au sacrifice accompli de Jésus-Christ, qui est la foi en Jésus-Christ. Et lorsque Paul et Silas sont mis en prison dans le livre des Actes, ils disent aux geôliers, crois au Seigneur Jésus. Ça veut dire avoir la foi en Jésus-Christ, avoir la foi dans le sacrifice accompli par Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille, c'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 13, chapitre 16, verset 31. Et aussi, Jésus-Christ lui-même nous le dit, et ça, c'est l'apôtre Jean qui nous rapporte ça dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est un verset que nous connaissons tous très bien, n'est-ce pas? Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque met sa foi dans le sacrifice, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Quand on a la foi en Jésus-Christ, on commence cette vie, cette nouvelle vie en Jésus-Christ qu'on appelle la vie chrétienne, qui commande une vie nouvelle, une vie séparée du monde, une vie entièrement transformée. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il leur dit, si quelqu'un est en Christ, vous voyez, si quelqu'un est en Christ, cette nouvelle vie là que nous avons en Jésus-Christ, cette personne-là, si elle est en Christ, elle est une nouvelle créature. C'est cette nouvelle vie chrétienne que nous étudions ce soir-là. La vie chrétienne qui commence lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais souvent, on oublie le reste, le verset qui suit, qui dit « Et tout cela vient de Dieu ». Ça nous dit que c'est Dieu qui a mis en place ce plan-là, ce plan que nous ayons, pour que nous ayons cette nouvelle vie, cette vie en Jésus-Christ, cette vie transformée, cette vie qui nous donne, qui fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est le travail même de Dieu. Et ça fait quelques semaines déjà que nous l'étudions, toutes ces doctrines essentielles de la Bible, ces vérités profondes que la Bible nous parle. Et c'est toujours dans le plan de Dieu, nous avons étudié le plan merveilleux du salut de Dieu. Tout ça, ce sont des provisions pour le chrétien, afin qu'il puisse vivre une vie chrétienne remplie et abondante. Et dans cette vie chrétienne, tout le long de cette vie chrétienne, qui commence avec la foi en Jésus-Christ, bien entendu, la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, nous voyons Dieu en tant que triunité, Père, Fils et Saint-Esprit, les trois sont à l'œuvre. Chacun leur rôle, disons, distinct, mais les trois sont là, ils sont à l'œuvre avant tout, avant même cette nouvelle vie. Nous l'avons vu il y a 2 semaines, il y a cette attraction, Dieu qui nous appelle, on l'a vu, Dieu nous appelle, tu es à moi, il nous appelle à venir à lui. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, pour nous rendre conscients de notre état de péché, d'abandonner le péché, de voir que nous avons besoin de sauveur. De justice, de voir comment Dieu va faire justice. Dieu, c'est un Dieu juste qui va punir le péché. Et quand il punit le péché, il a raison pour de punir le péché parce qu'il est un Dieu saint. Il tolère pas le péché. Et il va évidemment juger le péché. Et nous, dans Jean chapitre 16, nous l'avons vu que Dieu lui-même, il a jugé le prince de ce monde, Satan. Alors, Père, Fils et cet esprit sont à l'œuvre tout le long de cette nouvelle vie, la vie chrétienne. Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit sont à l'œuvre dans notre vie aujourd'hui. Ils veulent travailler pour que nous ayons cette vie abondante, une vie qui lui soit agréable en tant que chrétien, cette vie chrétienne que nous avons. Alors, nous avons dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre tout le long de cette vie nouvelle. En fait, avant même, nous l'avons dit, parce que c'est Dieu qui nous attire à lui. C'est son Saint-Esprit qui nous convainc du péché pour qu'on puisse abandonner notre péché et croire au sacrifice de Jésus-Christ. C'est avant même cette vie chrétienne que nous voyons Dieu agir pour nous amener à lui. Cette conviction du péché se fait, on comprend bien, avant le péché, avant que nous devenions chrétiens, avant la vie chrétienne. Cette conviction de justice et de jugement qui nous fait comprendre que nous avons besoin de nous repentir, ça se fait aussi avant la vie chrétienne, bien entendu, mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue pendant la vie chrétienne, pendant notre vie de chrétien, en tant que chrétienne, cette vie que nous sommes appelés à vivre en sainteté pour Dieu. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Le Dieu est encore à l'œuvre. Le Dieu triunitaire, Père, Fils et Saint-Esprit sont encore à l'œuvre pour nous convaincre encore de péché parce que, à cause de notre nature pécheresse, bien que nous soyons des chrétiens, nous avons cette nouvelle nature en tant que chrétiens qui sommes en Christ, mais nous péchons malheureusement et que le Saint-Esprit est encore là, est toujours là pour nous convaincre, pour nous faire comprendre que ce qu'on fait, c'est pas correct, qu'on vit dans le péché lorsqu'on fait un péché, lorsqu'on fait quelque chose, qu'on s'éloigne de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est encore là pour nous convaincre encore du péché, que c'est pas bon, que le péché est en Dieu là en horreur. Pour nous convaincre aussi de la justice de Dieu qui va apporter un jugement de la justice de Dieu qui va faire grâce à quiconque lui demande pardon, de nous convaincre de ça que c'est vrai, qu'il y a une provision de justice pour nous. Si nous acceptons de nous confesser à Dieu et ultimement qu'il va avoir un jugement et tout cela mis ensemble et sont toujours là pour nous aider à, comme nous l'avons dit, avant notre vie chrétienne, pour nous amener à la vie chrétienne, pour nous amener à croire en Jésus-Christ, pour nous amener à donner notre vie à Jésus-Christ, et aussi pour nous amener tout le long de notre vie, jusqu'à temps que Dieu nous ramène ou que le Seigneur revienne. Alors, le rôle de Dieu ne s'arrête pas au salut, tout simplement. À un moment dans l'histoire, à un moment dans le temps, Dieu nous sauve et ça finit là. Non, c'est pas comme ça. On découvre vraiment la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu pour ses enfants qui ne les laisse pas tomber, qui les sauve, mais qui leur donne aussi son Saint-Esprit qui les guide tout le long de leur vie pour les garder en harmonie avec lui, dans une bonne communion avec lui. C'est intéressant de voir ça, n'est-ce pas? Que Dieu est tout le temps à nos côtés et pour nous aider à revenir sur le bon chemin lorsque nous faisons fausse route. Alors, pendant notre vie chrétienne, et nous sommes dedans maintenant, si nous sommes chrétiens, si nous sommes en train d'écouter cette étude, de faire avec moi cette étude, regardons la vraie repentance. Alors c'est la présence de Dieu, encore par cet esprit qui aujourd'hui peut nous convaincre de péché, et de justice et de jugement, que nous faire sentir que nous avons besoin de nous repentir une fois de plus. On ne se repent pas juste le premier jour avant que nous devenions des chrétiens, non. Oui, évidemment, on a besoin de cela, de se repentir, de comprendre qu'on a péché et qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de Jésus-Christ, mais aussi de comprendre que tout le long de notre vie, nous avons besoin de nous repentir et nous repentir encore et encore parce que notre nature nous amène tellement souvent, facilement loin de la face de Dieu. On pêche, malheureusement, on pêche. Et Dieu va utiliser cette conviction du péché, de justice, de jugement pour provoquer vraiment ce qu'on appelle la vraie repentance, c'est-à-dire de nous forcer, n'a pas le choix de se tourner vers Dieu. Et c'est Dieu encore qui est à l'œuvre et qui provoque cette vraie repentance que nous étudions aujourd'hui. Alors, nous voyons que la vraie repentance, une repentance sincère, vraiment qui vient du cœur, elle est vraiment au cœur du processus de sanctification. Ça veut dire que on se repent sincèrement et puis on demande pardon et on sait que d'après les promesses de Dieu, Dieu nous pardonne. Sachant que Dieu nous pardonne, on peut venir devant lui malgré même si on a péché la millième fois, on peut venir devant Dieu avec assurance, sachant qu'il va nous pardonner. Et c'est ça, finalement, le processus de la sanctification, n'est-ce pas? Alors, l'homme, malheureusement, qui pèche, bien qu'il soit chrétien, bien qu'il soit serviteur du Seigneur, ça peut lui arriver de pécher, mais il peut pas vivre dans le péché. Et à cause du Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Dieu qui est à l'œuvre dans sa vie, qui va le convaincre du péché, de sa situation, qui n'est pas en ordre avec Dieu, il va forcer cette vraie repentance. Et c'est là qu'on parle, on parle de ce processus de sanctification qui nous sanctifie. Ça veut dire que on va demander pardon au Seigneur et Dieu nous pardonne et on rétablit cette communion avec lui. Excellent. C'est une bonne provision que Dieu fait pour ses enfants. Et à lui soit la gloire. Nous l'aimons pour cela. On a parlé déjà de la conviction. On voit que la conviction du péché est au cœur de la repentance, n'est-ce pas? C'est le moteur même de la repentance, de la vraie repentance. Mais nous croyons que c'est aussi deux choses, la repentance et la conviction du péché, ça marche ensemble. C'est vraiment indissociable et on peut les considérer comme étant deux sœurs jumelles, n'est-ce pas? Deux sœurs jumelles qui sont issues du plan de grâce. Dans le plan de grâce, le plan de salut que Dieu, et nous avons vu il y a quelques semaines, pour l'humanité, a mis en place pour l'humanité par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Alors, la conviction du péché et la repentance sont issus de ce plan-là. Dieu nous donne c'est la repentance et puis ces vertus-là, si on peut les appeler comme ça, la repentance et puis et Dieu nous convainc de péché dans le plan du salut. Et elles sont unies, la repentance et la conviction du péché sont unies. À la naissance, ça veut dire que même au début même de la vie chrétienne, hein, au début, quand Dieu nous appelle à la repentance pour son salut, disons, là, ils prennent naissance là parce que c'est eux qui nous poussent à accepter le don de Dieu. Et ils sont inséparables durant toute la vie chrétienne. C'est ce que nous avons dit tantôt. Nous avons besoin de nous repentir à tout instant de notre vie en tant que chrétiens. Nous avons besoin de nous repentir encore et encore et encore et demander pardon parce que notre chair est faible et nous péchons malheureusement des fois volontairement, mais des fois involontairement nous péchons. Et nous avons encore besoin de nous repentir. Et avant de nous repentir, il faut que Dieu nous convainque que ce qu'on fait, c'est pas dans sa volonté. On voit que cette conviction du péché qui est pas correct, que nous vivons dans un état qui ne plaît pas à Dieu, d'avoir cette conviction là et être poussé à se repentir et se repentir, c'est vraiment deux choses inséparables et qui sont avec nous, qui sont inséparables durant toute notre vie. Dieu a fait provision pour ces deux choses là d'être dans nos vies. Jean Calvin a dit que la repentance est le véritable retournement vers Dieu. Voilà, c'était quelque chose, c'est une décision qu'on prend, en fait par la grâce de Dieu, bien entendu, on peut le comprendre, c'est Dieu qui nous donne cette capacité-là de nous repentir, on va le voir un peu plus tard. Mais d'après l'expérience de Jean Calvin, il voit que c'était vraiment c'est une volte-face. Quand c'est comme si on s'en allait dans une direction et puis on fait une volte-face, on va dans la direction opposée. Et cette volte-face qui émane de la crainte pure, d'une crainte pure et honnête, c'est ça. Quand on a la crainte de Dieu, une crainte honnête, sincère de Dieu, et elle consiste à la mortification de la chair et du vieil homme. Ça veut dire que on traite mal le vieil homme, on laisse tomber le vieil homme, on abandonne le vieil homme et on vivifie l'esprit. Alors c'est l'expérience de Jean Calvin par rapport à la repentance. La repentance, on peut dire qu'elle est intérieure. La vraie repentance est intérieure, elle vient du cœur. Elle vient du cœur. C'est pas quelque chose qu'on fait sans en prendre conscience et puis on le fait de façon légère. Non, la Bible dans plusieurs textes nous voyons ce que Dieu demande de son peuple. Il est très facile pour nous en tant que humains d'avoir une repentance fausse, n'est-ce pas? On connaît dans la Bible il y a Saül, on peut voir en Saül un homme qui est repentant mais qui est pas vraiment un homme qui a la vraie repentance, tandis que à l'opposé de Saül, on voit David. Nous allons le voir dans quelques instants, un exemple du psaume que David a écrit et un psaume qui parle de sa repentance. Alors la vraie repentance, disons-nous, elle est intérieure, elle vient du cœur. Joël, le prophète Joël s'est adressé au peuple de Dieu dans Joël chapitre 2 verset 12 et 13, et il dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. On est sincère dans notre démarche quand on se repent. Dieu demande à son peuple, parce que souvent le peuple de Dieu n'était pas sincère dans sa repentance, et Dieu leur demande de revenir à lui de tout leur cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Il leur demande de déchirer votre cœur. Voilà le mot qu'on dit. Intérieur, vraiment, la vraie repentance vient du cœur. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Voilà, ça doit devenir du cœur. C'est ce que le prophète adresse au peuple de Dieu. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Voilà notre Dieu qui est un Dieu de charité, un Dieu d'amour, mais qui ne tolère pas le péché, qui ne tolère pas la distanciation entre lui et son peuple. Il veut la communion avec son peuple. Et lorsque son peuple s'éloigne de lui, et par le moyen de ses serviteurs, les prophètes dans l'Ancien Testament, il va leur demander de revenir à lui, mais de revenir à lui de tout cœur pour jouir de ses bénédictions. Dans Ézéchiel aussi, ce retour, cet appel à la repentance qui vient du cœur. Le texte nous dit, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. On parle du pardon, là, la grâce. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Non, c'est parce que Dieu désire. Il dit que le Seigneur dit l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite? Il vive. Ce changement de conduite doit venir du cœur. C'est le cœur qui va commander ce changement de conduite afin que Dieu puisse nous accepter et puis qu'on puisse vivre dans la présence de Dieu et continuer à vivre dans les bénédictions de notre Dieu. Comme nous disons, la vraie repentance, elle est vraiment intérieure. Elle vient du cœur. La vraie repentance, c'est un retour vers Dieu. Comme nous l'avons dit, on parlait de volte-face. Parce que si on est en harmonie avec Dieu, pourquoi se repentir? On n'a pas besoin de se repentir si on est correct avec Dieu. Si on est correct dans on applique les commandements de Dieu, on est obéissant. Mais malheureusement, nous connaissons en tant qu'humains, on n'est pas tout le temps obéissant au Seigneur et on fait fausse route, on pêche contre Dieu. Et la vraie repentance, c'est vraiment de reconnaître ça, de reconnaître qu'on n'est vraiment pas dans les voies de Dieu, de se faire un retour, un 180 degrés. Et pour reconnaître, pour retourner vers Dieu, et puis ce retour qui nous permet de commencer la vie chrétienne, ou bien de poursuivre la vie chrétienne. Quand on se repent pour la première fois, disons qu'on ne connaissait pas avant de connaître le Seigneur, que le Seigneur travaille dans notre cœur, soit par l'entremise de quelqu'un qui nous parle, qui vient nous annoncer la bonne nouvelle, on se repent. Alors notre vie chrétienne commence avec cet acte de repentance-là. Mais plus tard, quand on va déroger de la volonté de Dieu, quand on va pécher contre Dieu dans notre vie, c'est cette repentance-là encore qui va nous aider à poursuivre dans notre communion avec Dieu. Elle est vraiment sincère, si elle est vraiment sincère, si elle est la vraie repentance. Elle va nous ramener à Dieu. La repentance ne fait pas autre chose que nous ramener à Dieu, et ceci dans un esprit d'obéissance. Quand on revient, on est repentant, on est vraiment obéissant. C'est l'esprit d'obéissance qui nous anime. On est prêt à accomplir la volonté de Dieu. Et cette vraie repentance que nous disons, elle est souvent incitée par un sentiment de regret. On regrette la chose mauvaise qu'on avait faite. Souvent, ça commence avec ce sentiment de regret. Mais ça ne s'arrête pas là. Sinon, ça vaut rien. Il est pas sincère. C'est pas la vraie repentance. La vraie repentance commence peut-être, oui, par un sentiment de regret, mais il va plus loin. C'est vraiment un changement de direction, comme nous disions tantôt. C'est un retour vraiment aux voies de l'Alliance, les promesses que Dieu nous a faites, les sept Écritures, tout ce que les Écritures nous demandent de faire, la volonté de Dieu finalement, là, de retour aux voies de l'Éternel, ce que Dieu nous demande de faire. Parce que, évidemment, si on a besoin de se repentir, on était de loin de Dieu. Et Dieu le dit vraiment dans un texte que nous connaissons très bien. Et il dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Voilà, on voit vraiment cette démarche sérieuse et sincère du peuple de Dieu. qui commence avec l'humilité, ouais, et l'humilité qui va prier, qui va chercher cette dépendance de Dieu, qui va chercher la face de Dieu et se détourner de ses mauvaises voies. Si toutes ces actions-là, ça suit la repentance. La repentance, on peut pas dire qu'on se repent d'une chose alors qu'on continue de la faire. Non. Et c'était cet exemple que nous avons devant nous de la sincérité dans notre repentance. Le peuple de Dieu, si mon peuple dit, se repent et il cherche ma face, Dieu promet qu'il va l'exaucer. Et va, je pardonnerai son péché. Là, encore là, la provision pour la restauration est là. Si on se repent, Dieu promet qu'il va nous pardonner et va guérir le pays. C'est un texte qu'on connaît très bien, mais ça tombe bien pour nous parler vraiment de la vraie repentance, la repentance qui plaît à Dieu, la repentance que Dieu cherche. Cette repentance-là, on peut dire que pour arriver dans son cycle complet, il y a plusieurs étapes. Je ne vais pas dire que l'un vient avant l'autre. Je ne peux pas les donner un poids. Mais nous croyons que la vraie repentance passe par des étapes. Quelles sont ces étapes? Quand quelqu'un est loin de Dieu, quand quelqu'un vit dans le péché, quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui s'est écarté de la volonté de Dieu, et que il est touché par dans son cœur, le Saint-Esprit le convainc de son péché, lui dit que fait comprendre que ce qu'il fait c'est pas correct et loin de la volonté de Dieu. La première chose que cette personne-là doit comprendre, c'est qu'elle avait offensé Dieu. La vraie repentance, si une personne se repent sincèrement et vraiment, et elle va comprendre, cette personne-là va comprendre que j'ai vraiment offensé Dieu. Elle va sentir son offense envers Dieu. L'autre étape que nous pouvons voir, c'est qu'en fait, on a un exemple que du psaume 32, verset 3. Alors, c'est David qui parle. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Cette douleur-là, hein? Vous voyez? C'est ce que David dit quand il n'avait pas confessé son péché dans le psaume 32. Tant que je me suis tu, ça veut dire qu'il n'a pas confessé son péché. Ils disent que mes os se consumaient. C'est une douleur, là, tu vois. Il a cette douleur d'avoir offensé Dieu. Et il dit, je gémissais toute la journée. C'est avant d'avoir confessé. C'est l'étape de la repentance où on est conscient qu'on a offensé Dieu. Ça, c'est un signe de la vraie repentance. La prochaine étape, l'autre signe de la vraie repentance, c'est de avouer, accuser le péché, confesser le péché. C'est la prochaine étape. Si on sent cette douleur-là, Dieu nous convainc que nous avons péché contre lui, on sent cette douleur-là, que nous avons vraiment péché, nous avons offensé Dieu, et nous offensons Dieu par nos actions. Maintenant que nous sommes rendus conscients de cela, si on est vraiment repentant, on est sincère dans notre repentance, cette vraie repentance-là demande à ce qu'on avoue. On ne cache pas le péché. Et souvent, quand on parle à des couples, on leur encourage à avouer leur péché. Et c'est bon de demander pardon. Oui, mais c'est encore mieux de demander pardon et d'énumérer le péché, de l'avouer, d'accuser le péché. Demander pardon pour tel péché, énumérer le péché, accuser le péché, confesser le péché. Et ça, c'est vraiment un signe de la vraie repentance. Si on dit vraiment, je te demande pardon, sans même identifier le péché, là, on peut douter quand même, on peut douter de la sincérité de cette confession, de cette repentance. Et nous voyons David dans le psaume 51, vous vous rappelez, c'est un psaume, je pense que David, vous connaissez très bien, et que David a écrit après son péché avec Bathsheba. Et tout ce psaume-là, psaume 51, et c'est un psaume de repentance. Et nous avons tiré quelques textes là-dedans, mais vous pouvez lire tout ce psaume-là en entier, voir comment est-ce que Dieu a travaillé dans le cœur de David par l'entremise de son prophète, bien entendu, mais qu'il reconnaisse sa transgression et il confesse. Et lisez le psaume 51 en entier, vous allez voir comment vraiment c'était sincère sa repentance. Mais j'ai été chercher le verset 3 et 4 pour que nous puissions considérer ce soir. Il dit, car je reconnais ma transgression. Il reconnaît qu'il a péché. Il faut premièrement reconnaître que nous avons péché. Et mon péché est constamment, j'ai péché devant moi, et j'ai péché contre toi seul. Et souvent, on essaye, on parle de la repentance, mais c'est comme si on oublie que la première offense qu'on fait, c'est envers Dieu lui-même. C'est la loi de Dieu qu'on transgresse. Et dans notre vie chrétienne, évidemment, c'est la loi de Dieu qu'on transgresse. Peut-être dans nos relations familiales ou couples, on transgresse, on fait un péché contre une personne, mais ultimement, c'est contre le Dieu trois fois saint qu'on a péché. Alors, c'est un encouragement, d'après le modèle de David, qu'on puisse reconnaître notre péché, confesser nos péchés. Et il dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que Dieu, tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alors, un exemple de confession d'accusé, d'accusation du péché et de confesser le péché, qui est une autre étape dans la repentance. Éprouver la douleur, ça nous, on sent qu'on a péché, qu'on a offensé Dieu, ça nous fait mal. Et après, on avoue, on confesse le péché. Une autre étape dans la repentance, c'est d'implorer le pardon. Ça, c'est juste naturel quand on est vraiment repentant. Après avoir senti cette douleur-là, que nous faisons mal au Seigneur et que nous avons agi de façon malhonnête envers Dieu dans cette douleur-là qui pèse sur nous et qu'on avoue le péché, la prochaine étape, c'est sûrement d'implorer le pardon de Dieu. Et nous savons que le Dieu, dans sa parole, il le répète encore et encore, et je vais vous pardonner si vous me demandez pardon. Et David, dans le psaume 51, au milieu du chapitre, du psaume, il parle comme ça, il dit, détourne ton regard de mon péché, s'il te plaît. Tu vois ce ton d'imploration. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Voilà le psalmiste qui nous donne un bon exemple, comment il s'est senti et qu'il a imploré vraiment le pardon de Dieu pour son iniquité. Et l'autre étape, finalement, c'est de pardon, demander la grâce à Dieu de ne plus pécher, finalement, n'est-ce pas? Si on demande pardon, on est repentant, puis on commence à faire les mêmes péchés, on n'est vraiment pas sincère dans notre repentance. C'est pour ça qu'on parle de la vraie repentance, la repentance qui va implorer Dieu, avec des larmes des fois même, pour demander pardon pour son péché, et par la suite qui va demander la grâce de Dieu pour ne plus pécher. C'est important de voir que, et on parle de demander la grâce de Dieu pour ne plus pécher, parce que souvent, on pense qu'avec nos propres forces, on va prendre une décision disant que je ne vais plus pécher, je ne vais plus recommencer à pécher. Et malheureusement, on se rend compte souvent dans pas le grand temps, après avoir demandé pardon, on retombe dans les mêmes péchés. Et c'est pour ça que nous devons demander à Dieu cette grâce-là de ne plus pécher. Et le psalmiste, il fait exactement cette même action. Dans le psaume 119, verset 29, il dit, « Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Seulement Dieu peut nous donner cette grâce-là, qu'on peut rester fidèle à lui, qu'on ne tombe pas encore et encore dans le péché. Et c'est une prière que nous pouvons tous faire. Et je nous invite à le faire quand il faut demander pardon pour un tel ou tel péché dans notre vie que nous avons commis, que nous avons senti le Saint-Esprit à l'œuvre pour nous convaincre de ce péché-là, de nous mettre devant ce péché-là et nous amène à confesser ce péché-là. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de demander à ce qu'on retombe plus dans ce péché-là. Et c'est là qu'on peut demander au Seigneur de nous donner cette grâce-là, de nous donner cette grâce de rester, d'avoir la force de résister et de ne plus pécher. Gloire à Dieu, il est tout le temps là. Ouais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans toutes nos épreuves, dans tous nos combats, dans tout ce que Dieu nous demande à faire, il est encore là, il est juste à côté de nous pour nous aider à passer à travers, et ceci par son Saint-Esprit et sa parole. Et nous voulons dire aussi, après avoir demandé pardon, nous avons demandé pardon dans cette étape de la repentance, là maintenant on va demander au Seigneur de nous donner la grâce de ne pas retomber dans le même péché, dans le péché. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est la jouissance à nouveau de la communion de Dieu. Nous voyons le cycle qui termine comme ça. On pêche, on sent la douleur, le Saint-Esprit est à l'œuvre, il nous convainc du péché que nous avons fait. Maintenant, commence l'étape de la vraie repentance, on peut dire, là. On sent qu'on a vraiment fait mal à Dieu. Ce qu'on a fait, c'était vraiment pas correct. Ça ne plaît pas à Dieu, ça déplaît au Seigneur. Et c'est là qu'on va lui demander pardon, en sachant que vraiment, il est prêt à nous pardonner. Et quand on est pardonné, vous le savez comment, c'est réjouissant vraiment de retrouver notre communion avec Dieu. Et le psalmiste le dit, dans le chapitre 50, toujours dans le psaume 51, dans le verset 14, il dit, « Rends-moi la joie de ton salut. » Quand il était nous l'avons lu, le psaume 32, ses os se consumaient parce qu'il n'avait pas confessé son péché. Maintenant, dans le psaume 51, on le voit qu'il a confessé son péché. Hein? Là, il a le verset 14, il implore le pardon et il demande au Seigneur, « Maintenant, donne-moi la joie de ton salut. » Et certainement, et si Dieu est prêt à le faire, et nous savons que Dieu, après son pardon, il nous rend dans sa communion. Alors, une fois rendu à cette étape-là, nous savons que Dieu nous exauce, on peut vraiment jouir de la communion avec Dieu. Et ce cycle de la repentance est vrai pour notre communion avec Dieu, et aussi dans notre communion avec notre épouse, avec nos époux, avec ceux-là qui nous sont proches, nos enfants. Si nous suivons ces étapes-là, en fait, si Dieu nous met à cœur, si le Saint-Esprit nous convainc de ce péché-là, c'est du péché qu'on avait commis face à notre prochain, à notre femme ou notre mari, ou bien quelqu'un de notre entourage, mais finalement, ce sont les étapes à suivre, demander pardon, et sachant que cette personne-là, par la grâce de Dieu, va nous accorder son pardon, et on va vivre aussi et cette communion qui recommence dans nos relations. On parle de la repentance, mais la vraie repentance, peut-être qu'on pourrait penser que ça vient de moi, parce que c'est moi qui ai pris la décision de me repentir. Souvent, on raisonne comme ça. Mais plus qu'on regarde, qu'on creuse dans la Bible, qu'on regarde les textes dans la Bible, comment est-ce que Dieu se révèle, on voit que vraiment c'est tout à fait à la gloire de Dieu. Tous ce processus du salut et tout ce qui entoure le salut avec toutes ces doctrines essentielles qu'on parle, ces vérités-là, et c'est vraiment de la grâce de Dieu et ça fait partie du plan merveilleux de salut de Dieu, n'est-ce pas? On a parlé comment Dieu nous attire à lui. On a vu le texte dans Jean où Dieu, Jésus-Christ dit, hey, mon Père, personne ne peut venir à mon Père personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Fait qu'on voit l'intervention, c'est Dieu qui initie le retour, cette attraction-là vers son Fils. On parle de l'élection, Dieu qui choisit, avant même la fondation du monde, il choisit le sacrifice, Jésus-Christ qui a été choisi avant même et la fondation du monde pour être l'élu de Dieu. Et finalement, l'homme, monsieur tout le monde, que Dieu a choisi avant même la fondation du monde pour qu'il devienne ses enfants. Ce sont toutes des actions de Dieu. On a parlé de la conviction du péché. Et c'est Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, qui nous convainc du péché, de comprendre que ce qu'on fait, c'est pas correct, c'est pas dans sa volonté. De sa justice. Il nous comprend aussi de son jugement à venir. Et comment est-ce que le péché, c'est grave aux yeux de Dieu. Tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan du salut qui nous met face à ces réalités-là. On a parlé tantôt de la repentance. Et devine quoi? Cette repentance que nous croyons qui venait de nous, ça vient également de notre Dieu. Et je vais juste vous passer à travers quelques textes. Vous allez voir tout simplement que c'est vrai. Il dit dans Actes chapitre 5, verset 31, en fait, on est en train ici à Rosemont, à l'église de Rosemont, de passer à travers ce merveilleux livre où nous voyons les actions même du Saint-Esprit dans la vie de la première église, n'est-ce pas, quand Dieu bâtit son église à Jérusalem, cette nouvelle église. Et nous voyons dans Actes chapitre 5, verset 31, il dit Dieu, en parlant de Jésus-Christ, quand Pierre s'adresse à ces Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ, il leur dit Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur en parlant de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon pour son péché. S'il n'y avait pas ce sacrifice-là, il n'y aurait pas eu de pardon pour nos péchés. Il n'y aurait pas eu de repentance. Alors on voit que c'est Dieu lui-même qui a fait provision pour cette repentance-là, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui fait la repentance, qui est la source de cette repentance-là. Et il donne Jésus-Christ pour Jésus-Christ, et il le donne en exemple comme celui qui donne à Israël la repentance pour le pardon de son péché. Plus loin, l'apôtre Paul s'adresse à son jeune protégé Timothée, hein, et il le dit dans le chapitre 2, verset 25, il dit, « Il doit redresser avec douceur les adversaires. » Alors, il parle du serviteur du Seigneur, n'est-ce pas? Paul s'adresse à Timothée et lui dit que le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance qu'il aura la repentance tout seul. Non, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà un autre exemple qui nous montre que Jésus-Christ, Dieu, ils sont à la source, ils sont au cœur de la repentance. Ils font provision pour la repentance. C'est lui qui pousse l'homme à la repentance. Et nous ne pouvons que jouir des bienfaits de la repentance. Vraiment, on voit un Dieu qui vraiment prend soin de sa création. Les besoins spirituels sont rencontrés là, là. Il a fait provision pour le salut. Et mais autour de ce salut-là, tout ce que ça prend pour vivre une vie et qui lui est agréable, une vie, finalement, une vie chrétienne, n'est-ce pas? Une vie chrétienne. Et il y a un autre texte dans Actes chapitre 11, toujours dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 18. Et après avoir entendu cela, dit le texte, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, en parlant des païens, en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. On voit dans le cas des Juifs, le peuple choisi, le peuple élu de Dieu, que c'est Dieu qui donne la repentance. Et dans ce verset-là, dans ce texte-là, dans le chapitre 11, verset 18, c'est encore Dieu, c'est encore le Saint-Esprit, et c'est encore la tri-unité qui est à l'œuvre ici pour accorder la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie éternelle. Cette vie nouvelle, cette vie chrétienne dont on parle ici, là, c'est le plan de Dieu, c'est le don de Dieu. Si nous regardons plus loin, nous pouvons remarquer aussi que Dieu, il donne la repentance, il soutient cette repentance-là, il nous donne les outils, n'est-ce pas? Il nous donne les outils pour vivre cette vie de repentance. Et Dieu nous appelle à vivre cette vie dans la communion avec lui. Ça vaut la peine de regarder le psaume 51, et je vous invite à regarder avec moi le psaume 51. Alors David, c'est l'une des personnes qui a connu, c'est le serviteur de Dieu qui a connu vraiment cette étape de la repentance, de vraie repentance. Et nous pouvons lire comment il a écrit ce psaume, qu'est-ce qu'il a fait lorsque le prophète Nathan est venu vers lui pour lui montrer son péché, pour pointer son péché. Et voilà ce que David écrit dans le psaume 51. Alors le psaume dit comme ça, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, c'est un psaume de David, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. On voit ce besoin de purification dans cette prière de David, dans cette confession de David, dans ce psaume de repentance de David. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà l'étape où il va vraiment accuser le péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. On voit David qui est conscient de la promesse de Dieu, n'est-ce pas? On peut comprendre que c'était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu, qui connaissait son Dieu et qui a commis un péché, comme tout chrétien, ça peut arriver à tout chrétien. Mais voilà, les démarches de ce serviteur, c'est vraiment une démarche sincère et il comprend que Dieu est là pour lui donner la victoire et il n'a pas honte de confesser son péché, sachant qu'il va avoir la joie à l'allégresse et l'allégresse à la fin. Verset 11, il lui demande au Seigneur de détourner son regard de ses péchés. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Et Dieu va le faire. Et Dieu le fait pour nous quand on lui demande pardon. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit, Seigneur. Il a compris que son péché pourrait l'amener loin de Dieu, pourrait amener un châtiment de Dieu sur lui. Mais il implore Dieu. Il lui demande de ne pas le rejeter loin de sa face et de ne lui pas enlever son Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors il fait des promesses, n'est-ce pas? Il fait des promesses, il dit dans le verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs viendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. » Voilà le texte qu'on disait tantôt là. On va demander à Dieu la grâce, cette grâce-là de ne pas retomber dans le péché, de ne pas vivre dans le péché. Il demande à Dieu dans le verset 16, « Ô Dieu, le Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui sort agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux. » Voilà. Un homme qui va passer à travers, chuter, qui va commettre un péché, et qui va avoir le cœur brisé, qui va se sentir coupable et qui va venir demander pardon à son Seigneur, qui est sûr d'obtenir le pardon de son Dieu. Et il fait des promesses, n'est-ce pas? Il fait des promesses à son Dieu qu'il veut garder. Et il par la suite, il va adorer, il va donner des taureaux, offrir des sacrifices d'action de grâce, parce que c'est un Dieu qui sauve, un Dieu qui écoute, un Dieu qui pardonne, qui est prêt à pardonner encore et encore. Voilà c'est le grand Dieu que nous servons. Voilà toutes les provisions, entre autres, que nous avons pour notre vie chrétienne, pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Est-ce que ça va être facile? Je peux dire que ce sera peut-être pas facile, parce que à cause de notre chair, de notre nature de péché. Mais n'oubliez pas que Dieu, c'est ce qu'il veut, que l'homme se repente. Parce que l'homme aura péché, il veut qu'il se repente et que Dieu est là. Il fait provision pour son peuple. Il fait provision pour ses enfants qui vont venir à lui dans la vraie repentance. Dieu nous appelle à cette vraie repentance. Dieu veut que ses enfants soient sincères dans la repentance. Pas juste un regret du péché. N'importe qui peut avoir un regret du mal qu'il aurait fait. Mais c'est pas n'importe qui va aller jusqu'au bout et demander pardon, avoir un cœur brisé, un cœur contrit du péché qu'il avait fait. Seulement Dieu peut accomplir cette œuvre-là dans notre cœur, nous faire sentir vraiment le poids de notre péché, la laideur de notre péché, et devenir à lui, et lui, le Dieu miséricorde qui est lent à la colère, riche en bonté, va nous faire grâce et va nous pardonner, afin que l'on puisse recommencer dans la communion que nous méritons avec notre Dieu et jouir de ses bénédictions. Dieu nous appelle à la repentance. Pas une repentance légère, une repentance malhonnête, mais une repentance sincère, une repentance vraie. Et une repentance, on peut dire, qui réveille. Waouh! Une repentance qui nous fait, qui nous brasse, qui nous fait comprendre que ce qu'on nous avait fait, on n'était pas dans la voie du Seigneur, et maintenant, il faut se ressaisir. Et cette repentance-là nous donne le dégoût pour le péché. Ça va nous donner le dégoût pour le péché. Lorsqu'on a ce dégoût du péché, il faut demander pardon au Seigneur. Il faut savoir que nous avons une fois de plus fait fausse route et nous avons offensé notre Dieu et sentir cette douleur de l'offense que nous avons fait à Dieu. Cette repentance-là que Dieu demande, c'est celle qui contrit le cœur. Le cœur devient brisé et qui nous force vraiment. Là, on sent le besoin, on sent la nécessité vraiment du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu qui va être la source de notre guérison. Un pardon qui produit vraiment le désir, hein, une repentance qui produit le désir de retourner dans la communion avec Dieu. Quand on vit dans le péché, on n'a pas cette communion avec Dieu, n'est-ce pas? On est coupé de la communion avec Dieu. On est comme abandonné à nous-mêmes. Et si on est un chrétien, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas être confortable si on est vraiment un chrétien. De ne pas avoir cette communion avec notre Dieu, sans une distance dans la communication avec Dieu. On ne peut pas chanter, on ne peut pas lire notre Bible, parce que vous savez que notre Bible, c'est notre miroir. Il va nous montrer notre situation telle que nous sommes. Et puis dans ce temps-là, on n'est pas prêt à lire notre Bible pour avoir cette communion avec Dieu. Quand on est dans un état de rébellion et qu'on est loin de Dieu. Mais avec la vraie repentance, on est prêt à aller, et on a ce désir-là d'aller, de retrouver, de rebâtir cette relation-là de communion avec Dieu, de pouvoir le prier à tout instant, de chanter à sa gloire, de le louer avec nous, seul dans la chambre, avec la famille et avec les amis, d'avoir une relation et de louer et d'adorer notre Dieu. Seul ou en famille, ça se fait très bien. Et quand on est dans cette relation de communion avec Dieu. Mais ça se passe lorsque nous sommes vraiment dans la communion avec Dieu. C'est pas lorsqu'on vit dans le péché, c'est parce qu'il y a une coupure, une rupture dans notre relation avec Dieu à cause du péché dans lequel on vit. Qu'on puisse avoir ce désir-là. C'est ce genre de repentance que Dieu recherche. Parce qu'il veut nous bénir, finalement, c'est ce que Dieu veut. Dieu a une provision de bénédiction pour ses enfants, que ses enfants vont retrouver seulement dans la communion avec lui. Et le péché, comme il l'a fait dans la Genèse, comme nous l'avons vu avec nos parents, le péché va briser cette relation-là. Il va nous distancer de Dieu. Et gloire à Dieu que Dieu, comme nous l'avons dit, il a tous ces outils-là qu'il met à notre disposition, son Saint-Esprit, qui va nous convaincre du péché, oui, qui va nous amener vraiment à la repentance. Et comme nous l'avons vu, Dieu, c'est lui-même qui va mettre la repentance à notre disposition, sachant qu'il avait déjà donné son Fils qui va pardonner nos péchés et nous inciter à lui demander pardon, et sachant que nous pouvons renouer avec lui dans un lien de communion. Alors, c'est ce que nous voulons regarder ce soir, vraiment la repentance. Nous avons vu tout ce que Dieu a fait comme provision, et que nous avons vu que la repentance, vraiment là, c'est une décision qui vient du cœur, une décision vraiment qui n'est pas prise à la légère. C'est pas juste le regret, ça peut commencer par le regret, mais ça finit vraiment par une décision, un vol de face. Et ça, c'est un outil, c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est Dieu met à notre disposition en tant que chrétienne, personne qui a mis leur confiance, personne qui a mis leur foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, et qu'on devient vraiment cette nouvelle nature. On vit cette vie qu'on appelle la vie chrétienne, cette vie que nous voulons vivre, que nous voulons avoir une vie qui soit en conformité avec Dieu. Dieu fait provision pour que cela soit possible. Il met beaucoup de choses à notre disposition, entre autres, sur cet esprit qui nous convainc du péché, et il nous donne aussi la repentance pour qu'on puisse avoir la communion avec lui en tout instant et vivre dans cette communion-là. Et cette communion-là, c'est pour notre bien, pour qu'on puisse jouir à 100% de ces bénédictions, parce que si on n'est pas en communion avec quelqu'un, on ne peut pas jouir de ses bienfaits, hein. Et ceci est vrai pour notre Dieu. Et si on n'est pas en communion avec Dieu, on ne peut pas vivre pleinement notre vie chrétienne. Et Dieu veut que cette communion-là soit tout le temps les canaux de communion, de cette communication-là avec notre Dieu, soit intact en tout temps, et ne pas laisser le péché rompre notre relation avec Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée et avec ces pensées-là, et nous vous encourageons à continuer ce combat-là, sachant que le vieil homme et le nouvel homme qui prend naissance lorsque nous recevons Jésus-Christ, il y a cette bataille-là. Mais sachant que nous sommes pas seuls. Dieu, c'est lui qui nous appelle à la repentance. Quand on s'éloigne de lui, il veut qu'on revienne à lui par la repentance, et il nous donne les outils, son Saint-Esprit. travaille pour nous amener à cette repentance-là. Et nous voulons le remercier parce qu'il veut qu'on revienne dans la communion avec lui. Terminons par un mot de prière, s'il vous plaît. Merci notre Dieu, notre bon Père Céleste, pour la richesse de ton salut. Un salut merveilleux que tu as préparé même avant la fondation du monde. Et tu as fait provision pour toutes sortes, toutes les âmes que nous avons, Seigneur, besoin pour vaincre le mal, pour gagner cette bataille contre la chair. Et tu fais provision pour nous par ton Saint-Esprit, par toute, en fait, la Trinité est là, Seigneur, avec nous dans ce combat-là. Non seulement tu nous sauves, mais tu es à côté de nous, tu marches avec nous, Seigneur, et tu nous donnes la force. Quand on tombe, tu nous relèves, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et tu nous donnes aussi la repentance, comme nous l'avons vu ce soir, Seigneur. Et donne à chacun de nous, Seigneur, qu'on puisse être vraiment des personnes repentantes, Seigneur. Qu'on puisse être obéissant quand on s'éloigne de toi, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous révèle notre état de désobéissance, que ton Saint-Esprit nous révèle notre état de péché, Seigneur, qu'on puisse comprendre comment ça te fait mal de nous voir pécher, Seigneur, comment notre péché t'accable, notre péché te fait mal. Tu veux pas que tes enfants vivent dans le péché, Seigneur, et qu'on puisse abandonner le péché, venir vers toi en demandant le pardon, Seigneur, sachant que tu es prêt à nous pardonner, Seigneur. C'est ce que tu veux, qu'on revienne dans cette relation avec toi. Tu désires cette relation avec nous, tes enfants, Seigneur, et donne-nous ce désir, Père, Seigneur, de rester dans cette relation avec toi, dans cette communion avec toi, en faisant la guerre à tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de vivre en communion avec toi, Seigneur. Bénis-nous tous ce soir, chacun de nous, dans nos familles, ou individuellement, Seigneur, et nous te demandons de continuer de nous bénir, notre Église et nos pasteurs, et sois avec nous cette soirée et le reste de la semaine. Merci, parce que tu vas nous répondre. Et nous te demandons ces grâces dans les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.